Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après ce panorama des marchés, on va rentrer dans une thématique justement de marché, d'investissement, grâce à Antoine Dumont. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup de nous avoir rejoint, directeur de la distribution et des partenariats d'Ecofi. Et je le disais en préambule, on va s'intéresser à l'ESG, entre guillemets, à ces investissements socialement responsables. C'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, pour planter un petit peu le décor, des grands enseignements du GIEC sur le climat, sur la façon dont finalement ces questions peuvent influencer la façon d'investir des épargnants?
Alors, la façon d'investir d'une part, mais aussi la façon de voir le monde dans lequel nous sommes. Le GIEC, les derniers rapports sont implacables. On sait que l'activité humaine contribue à l'accélération du réchauffement climatique. Alors le GIEC, c'est important de savoir que c'est pas... Ils ne mènent pas dans leur coin des travaux de recherche. C'est une instance onusienne qui a pour objectif de compiler les travaux de recherche qui ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et on a aujourd'hui 99,96% des études qui convergent sur le fait qu'il y a une responsabilité humaine. Et le rapport du GIEC, le précédent, notamment du groupe 1, nous dit sans détour qu'on a déjà augmenté de 1,2 degré le réchauffement climatique depuis la période pré-industrielle. Et 1,2 degré, c'est assez compliqué à percevoir avec ses sens, parce qu'on a des variations de température parfois importantes, au sein d'une journée. Mais si on prend un petit peu de recul et on remonte, alors je vous propose de remonter, Cédric, un peu plus loin, il y a 22 000 ans, on était en 20 000 avant notre ère, et on était à l'apogée de la dernière ère glaciaire. Il faut bien savoir qu'à cette époque, l'Europe, pour prendre cet exemple, était recouverte de steppes et de toundra. Vous aviez jusqu'à 3 km de glace au-dessus des pays scandinaves. Les niveaux de la mer étaient 120 mètres plus bas. Et entre moins 20 000 et moins 10 000, où on sort de cette période de glaciation, on a eu un réchauffement moyen sur 10 000 ans de 4 à 5 degrés. Donc quand on parle de 1,10 000 ans. Sur 10 000 ans. Et là, on a sur 170 ans 1,2 degré de réchauffement.
Donc on a déjà fait un peu plus du quart.
Là, quand on parle d'un mur climatique, on est vraiment d'un point de vue très visuel sur un mur climatique. Et la difficulté, c'est que les trois quarts de cette dérive climatique proviennent des énergies fossiles sur lesquelles le monde thermo-industriel repose.
Alors quand on rentre dans ce monde de la gestion et de l'ESG, on va dire, on entend pas mal de mots. Et notamment, il y a un vocable qui revient dans pas mal de discours, dans pas mal d'études, dans pas mal d'articles. C'est celui de double contrainte carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de double contrainte carbone et qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur ces stratégies?
Alors évidemment, c'est clé, hein, la double contrainte carbone, c'est le fait d'être prise en étau entre le tarissement géologique en amont, tarissement des énergies fossiles, et la dérive climatique en aval, le fait de brûler des énergies fossiles. Sur le premier sujet en amont, on sait que les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, sont des énergies de stock, ce sont des résidus de vie ancienne qui ont mis entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'années à se constituer. Et comme tout stock, quand vous tapez de façon croissante ou constante dans un stock, vous atteignez un pic au bout d'un moment. Et l'Agence internationale de l'énergie, à cet égard, a sorti un rapport en 2018 disant que nous avions dépassé le pic du pétrole conventionnel en 2008. Depuis, le pétrole a continué d'augmenter jusqu'à atteindre un plus haut en novembre 2018 grâce au pétrole de roche-mer et au sable bitumineux. En aval, on vient d'en parler, c'est la dérive climatique qui est très importante et qui est intenable à moyen, long terme. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. Et la difficulté de cette double contrainte carbone, c'est qu'elle réside essentiellement sur la consommation sans cesse croissante des énergies fossiles. Il faut bien voir qu'entre 1800 et aujourd'hui, les énergies ne se sont jamais substituées les unes aux autres. On a eu la biomasse, après on a eu le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis l'hydroélectricité, puis le nucléaire et les nouvelles énergies renouvelables, mais elles ne se sont jamais substituées les unes aux autres.
On n'a jamais remplacé, oui, effectivement, on a continué à chauffer au bois chez certains.
Exactement, on n'a jamais remplacé, et surtout, c'est un point essentiel, c'est que les énergies fossiles dominent encore très largement, de la tête et des épaules, le mix énergétique mondial. Et ça, évidemment, c'est clé, parce que l'énergie, en physique, c'est ce qui permet de quantifier la transformation d'un système. Et donc l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est comme si l'humanité avait démultiplié sa puissance musculaire par un facteur de 200. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, ça va être de transitionner pour réduire cette dépendance aux énergies fossiles à cause de cette double contrainte carbone, à cause de la contrainte en amont et la contrainte en aval.
Pour autant, il y a des tas d'initiatives quand même qui se mettent en place. On a l'impression qu'on prend conscience des choses, y compris chez nos dirigeants. Il y a des Green Deal, il y a des Repower UE, enfin bref, il y a des tas de choses. En quoi est-ce que ça influence la façon dont on investit ?
Alors, ça influence grandement la façon dont on investit pour une raison très simple, c'est que ça offre un cadre, une visibilité aux entreprises. Il faut bien voir que ce plan Green Deal ou ce plan REPowerEU, ce sont des plans qui sont arrivés à un moment où on s'est rendu compte que nos économies étaient vulnérables. Et notamment, on a vu l'épisode Covid, on a eu l'épisode guerre en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Ces épisodes ont très, de façon évidente, mis en avant le fait que nos modèles à flux tendu, sans redondance, sans substitut, enfin, c'est véritablement ces chaînes de valeur qui ont été étirées au maximum, nous ont rendus vulnérables. Donc aujourd'hui, on a ces grands plans qui, notamment, ont pour objectif de regagner en autonomie stratégique et notamment sur la production d'énergie. Il faut bien savoir qu'en Europe, on n'a pas du tout les mêmes sujets qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde. L'Europe importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz et 50% de son charbon. Donc nous, on doit absolument investir pour réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc ce cadre, ces cadres-là, sont pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de nous projeter et de réinsérer la notion de long terme quand on investit dans les sociétés.
Et du coup, où sont les opportunités aujourd'hui dans ce monde qui devrait devenir durable ?
Alors quand on regarde le monde, la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, on a dit que c'était un monde qui reposait essentiellement sur des énergies fossiles. Donc il paraît assez évident que pour réussir à limiter le réchauffement climatique, alors évidemment les accords de Paris entre 1,5 et 2 degrés à horizon 2100, et 1,5 ça va être compliqué à tenir, mais on sait très bien que dans ce monde-là, il va falloir réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc il ne faut pas être manichéen sur la croissance ou la décroissance, il y a des pans de l'activité qui vont devoir décroître, et il y a des poches de croissance qui vont être extrêmement solides de notre point de vue. Ça peut être l'efficience énergétique, ça peut être la mobilité bas carbone, la gestion des flux dans les villes, ça peut être également les matériaux de construction qui vont avoir une herméticité thermique plus importante, les énergies renouvelables, de l'amont à l'aval, la gestion des déchets, la valorisation de l'eau. Il y a tout un tas de secteurs qui peuvent être extrêmement, et qui, de notre point de vue, vont être extrêmement porteurs dans les années à venir parce qu'ils répondent véritablement à un enjeu très important.
Mais ces valeurs, Antoine Dumont, c'est ce qu'on appelle finalement les valeurs vertes. Et si on regarde un petit peu, elles ont quand même considérablement, peut-être pas dire souffert, mais eu un petit peu de difficulté en bourse ces derniers temps. On peut imaginer que ça se reprenne parce que c'est inévitable.
Alors je pense que c'est important de dissocier le fait qu'elles aient souffert en bourse du fait que, d'un point de vue très fondamental, ce sont des sociétés qui, pour la plupart d'entre elles, continuent à afficher des fondamentaux solides.
D'accord.
Les raisons pour lesquelles ces valeurs ont baissé, c'était à partir de novembre 2021, un moment où les banquiers centraux remontent leurs taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Et vu que ce sont des sociétés qui sont typées croissance, elles sont très sensibles aux taux d'intérêt. Donc on a eu une baisse des valorisations, des multiples de valorisation qui a été assez nette, mais là c'est assez conjoncturel dans un contexte économique très particulier et un contexte économique qui est en train d'évoluer. On voit notamment ces taux qui devraient rentrer dans un moment plus raisonnable. En tout cas, on a plus de visibilité sur ces taux d'intérêt.
Mais du coup, quand on a un fonds qui compte ces valeurs-là, il faut quand même le prendre en compte. Et ça doit pas être facile tous les jours de tenir une valorisation de fonds, même si, effectivement, on est persuadé que l'avenir est devant nous.
Alors, il est important, sans doute, de réinsérer la notion de long terme dans les allocations, de dire que lorsqu'on achète...
De dire qu'on n'investit pas pour 6 mois, qu'on est là...
On n'investit pas pour 6 mois, et surtout, de dire une chose importante, c'est lorsque l'on achète une action en bourse, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité de la société à générer de la croissance dans le futur. C'est ça, la chose essentielle. Et on sait de façon certaine qu'à long terme, le fondamental se révèle. Autrement dit, que le cours boursier finit dans la durée par converger vers la capacité qu'ont les sociétés à générer de la croissance. Et la question qu'on se pose, mais où sera la croissance dans un monde qui va devoir réduire sa dépendance aux énergies fossiles? La réponse qui est la nôtre, c'est que la croissance va se situer dans les secteurs et dans les entreprises que l'on porte dans nos portefeuilles qui répondent à ces grands enjeux.
Alors, on ne va pas faire de réclame, mais c'est intéressant tout de même de se plonger dans la façon dont on fabrique aussi ces supports qui permettent aux investisseurs de venir sur ces thématiques. Vous avez chez Ecofi deux fonds sur ces thématiques climatiques. Vous avez Agir pour le climat et Smart Transition. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Et puis nous dire aussi un petit peu quels sont les indicateurs qu'on regarde pour les piloter.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux fonds qui vont aborder l'investissement socialement responsable de façon très différente. On a un fonds de solution, c'est le fonds Ecofi Agir pour le climat. Quand je dis fonds de solution, c'est que c'est un fonds qui cherche à investir dans des sociétés qui apportent des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux, et notamment de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Donc sur un fonds comme celui-là, on embarque des biais sectoriels qui sont assumés et qui sont forts, ce qui fait que Ecofi Agir pour le climat a connu des périodes de très nette surperformance par rapport à son indice entre sa création en novembre 2018 et fin 2021, période justement où les taux
où ça a commencé à devenir moins facile, on l'a dit.
Ça a été moins facile, évidemment. Et donc, une deuxième période qui était plus compliquée. On vient de le dire. Là, on est sur un fonds donc, de solutions qui a ces biais-là. À côté, chez Ecofi, on a un autre fonds sur la zone euro qui s'appelle Ecofi Smart Transition, où là, on va aborder l'investissement d'un point de vue transition, tout est dans le titre, où on cherche à investir dans des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais on a beaucoup moins de biais, et on a d'autant moins de biais que c'est un fonds quantitatif, où l'objectif est d'investir, de répliquer la performance du marché action de la zone euro, mais en y apposant une double exigence. Premièrement, notre exigence extra-financière avec notre méthodologie d'analyse extra-financière qui s'appelle PRISM, et deuxièmement, en investissant dans des sociétés qui respectent les accords de Paris et la trajectoire 1,5 degré.
Est-ce qu'on peut juste regarder un petit peu dans l'un ou dans l'autre et peut-être illustrer pour qu'un épargnant se rende compte finalement de ce que ça veut dire un produit de transition ou un produit qui agit sur le climat ?
Si on regarde par exemple sur le fonds Ecofi Agir pour le climat, on est vraiment sur des secteurs qui apportent des solutions. Je l'ai évoqué précédemment, efficience énergétique. Dans l'efficience énergétique, on a notamment des acteurs en portefeuille. Je pense à une société comme Waga Energy, dont l'objectif finalement est d'aller récupérer le méthane émis par les décharges, avec pour objectif de le réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 86 fois plus puissant que le CO2 par unité de masse sur une période de 20 ans, et donc un pouvoir réchauffant très important. Waga Energy, ils vont avoir cette solution très concrète. Donc typiquement, c'est le genre de société qu'on va avoir sur la partie solution. Sur la partie transition, on a véritablement cet objectif d'avoir des sociétés qui réduisent leur dépendance aux énergies fossiles, mais on peut en avoir dans différents secteurs. Donc on va aborder, c'est pas un fonds qui va être un fonds de conviction, au sens stock picker, c'est un fonds quantitatif. Donc là-dessus, c'est une approche très différente. Ce sont les exigences en amont, plus l'algorithme à l'aval, qui a pour objectif de répliquer notre indice, qui compte, ce qui en fait un fonds qui a cœur de portefeuille sur la partie action, parce qu'on prend un risque relatif par rapport à notre marché le plus faible possible.
Comment est-ce que, quand on est particulier, quand on est épargnant, comment est-ce qu'on peut intégrer ces enjeux dans la gestion de son patrimoine? Et surtout, est-ce que c'est être un peu altruiste ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des bénéfices concrets qu'on peut en attendre?
Je pense que c'est très important de l'intégrer en se projetant comme un investisseur à long terme sur la partie action. Et donc à long terme, je le redis, la croissance de demain, selon nous, va davantage se situer autour des secteurs qui, d'un point de vue pragmatique et physique, à cause des flux physiques sous-jacents qui se tarissent et à cause de la dérive climatique, qui vont se situer vers des secteurs qui apportent des solutions concrètes. Donc là-dessus, on a une visibilité, en tout cas, on estime que ces secteurs-là vont dégager un chiffre d'affaires plus important, un pricing power important pour ceux qui ont un actif, une solution qui leur confère un avantage compétitif, donc des marges plus élevées, donc du cash flow, du free cash flow, et à terme, un cours boursier qui devrait s'apprécier. Et donc la façon dont l'investisseur particulier, en fonction de sa sensibilité, peut intégrer ce type de fonds, c'est de mettre un curseur en se disant « quelle est mon exposition sur ces thématiques-là » Mais d'ailleurs, il y a aussi un point important, c'est que même pour un investisseur qui serait moins appétant à toute la thématique d'investissement socialement responsable, c'est un contrepoids naturel dans son allocation.
C'est-à-dire
qu'il va être exposé sur des secteurs qui vont être différents. Donc des catalyseurs de performance qui vont être différents d'une exposition plus généraliste. Donc peut-être que dans ces fonds-là, on ne va pas être investi sur la tech, on ne va pas être investi sur d'autres secteurs qui ont très bien performé, au demeurant en 2024, mais on va être investi sur des secteurs qui embarquent et qui intègrent des catalyseurs de performance, des leviers de performance à long terme qui sont très puissants. Et donc en avoir un pourcentage dans son allocation, ça fait partie d'un exercice de diversification classique que tout investisseur devrait faire.
On vous sent, Antoine Dumont, très convaincu, et c'est assez mobilisateur. C'est vrai que ça devient essentiel, mais il y a toujours un peu la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que finalement on parle de l'ESG parce que toutes les maisons se sont mises à proposer des produits ESG, ou est-ce que les maisons se sont mises à proposer des produits ESG parce que les clients attendaient des produits ESG? En clair, comment est-ce qu'on fait, quand on est convaincu comme vous semblez l'être, pour accompagner cette nécessaire transformation, y compris de l'épargne? Dans le temps qui vient, depuis 2021.
Vous avez mille fois raison. Je pense que le point déjà clé chez Ecofi, c'est que c'est pas un effet de mode. Ecofi, on est une société qui existe depuis 1972, très engagée dans la finance durable, première société à avoir adopté dans le monde de la finance le statut d'entreprise à mission. Donc c'est quelque chose qu'on intègre totalement.
C'est l'ADN.
C'est l'ADN d'Ecofi. Que d'autres sociétés, de plus en plus, intègrent ces solutions d'investissement. Pour les raisons que j'ai évoquées, parce que des contrepoids dans la location, pour les clients, j'entends. Parce qu'on est sur des catalyseurs de performance à long terme qui devraient être puissants, évidemment, c'est quelque chose qu'on accueille de façon très enthousiaste, c'est évident.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager cet enthousiasme et cette conviction. Antoine Dumont, donc, pour Ecofi. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.